Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Guillaume Roux. Son regard cette semaine sur la drôlerie et l'originalité de l'écrivain de romans noirs et ancien professeur de philosophie Pascal Marignac, alias K.A., la lettre K suivie de deux A coiffées d'accent circonflexe. Je pourrais prendre n'importe quelle page au hasard, mais pour vous donner une idée de l'ironie du ton, je citerai un exemple tiré du roman « Il ne faut pas déclencher les puissances nocturnes et bestiales » dans lequel le narrateur, qui n'est pas blanc-bleu, se rend à un enterrement de truand où un ancien camarade d'école devenu policier le reconnaît. Quand ce dernier se met à lui raconter sa vie et lui explique qu'il a renoncé à ses premiers souhaits professionnels et est en partie devenu flic à cause d'une rencontre amoureuse, le héros a cette réflexion « Seigneur, pourquoi les humains tiennent-ils autant à exposer constamment cette médiocrité qu'ils croient passionnante ?» Acteur, réalisateur et scénariste, notre invité est accessoirement l'un des êtres les plus drôles de France, ce qui doit être fatigant quand on pense aux attentes que cela peut susciter chez son prochain dès qu'il le croise. Pour ajouter à ses mérites, signalons qu'il porte fort gracieusement la perruque dans le roman photo Guacamole Vaudou, écrit par Fab Caro, de rien, et tout juste paru au Seuil. On peut également le voir dans la dernière saison de LOL qui rit sort sur Prime Video et dans la série Weekend Family sur Disney+. Je donnerai les autres projets en cours à la fin de l'émission.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Éric Judor.
Bonjour Eva. C'est une présentation très très haute. Hein. Là, je suis,
haute dans quel sens?
Laudatif, quoi. Je suis l'un des hommes les plus drôles de France. J'adore.
C'est non, vrai, mais j'aime mais bien. Mais je le pense.
Ouais, ah ouais,
vraiment.
D'accord, ouais. Ok. Et vous représentez des gens?
Je représente le peuple français.
Ah ouais, carrément, ouais. Quand même. Ah ouais, ok. Humble en plus.
Oui, très.
Alors, on m'a dit de ne pas être trop complice avec vous, parce que sinon.
C'est moi qui vous l'ai dit hors antenne. Ouais. Parce que vous étiez déjà d'une complicité folle en arrivant et je me suis dit, attendez, on ne se connaît pas, j'ai pas envie d'exclure les auditeurs.
Et ça exclut, ouais, c'est ça.
Calmez-vous,
c'est dingue.
Éric Judor.
Non, mais comment est-ce que la complicité à l'antenne peut exclure des gens? Au contraire,
bah, si, parce que.
Cool,
non, parce qu'ils peuvent se dire, ah, mais ils sont amis en fait, ils se connaissent déjà, alors nous on est.
Du coup, elle dit que c'est le mec le plus drôle, alors que moi je le trouve pas terrible.
Non.
Des trucs comme ça.
Mais alors, vous n'échapperez tout de même pas aux questions.
Piège.
Ouais.
Ok.
Vous êtes prêts?
Ouais.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Vous êtes une des femmes d'arc les plus drôles de France, moi je trouve.
Parce que, alors, non, mais alors je dois expliquer, parce que les auditeurs vont se sentir exclus. Vous m'avez dit que j'étais d'arc hors antenne, vous avez lu dans mon âme.
Ah bon? Parce que c'est vrai?
J'imagine, quand la lumière
est
éteinte.
Si j'ai lu dans votre âme, c'est que visiblement j'avais visé juste.
Oui, mais parfois.
Si vous considérez que j'avais lu dans votre âme.
Quelques LED s'allument parfois dans mon âme. Éric Judor, êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Très.
Très content.
Ouais, vraiment, je suis heureux. J'espère cependant que c'est ma dernière vie parce que c'est épuisant.
Ah oui. Vous voulez pas revenir?
Non.
Ah oui, non, moi,
non. Non, ça y est, pour moi, c'est bon là. Ça y est, j'ai fait les choses qu'il fallait faire, j'ai vécu les trucs qu'il fallait vivre. J'ai plein d'enfants. Stop. Enfin, stop, pas aujourd'hui, hein.
Non, non.
J'aimerais bien aller une vingtaine, 20, 30 ans de plus. Mais ça y est, quoi. Je trouve ça horrible, l'idée de se dire que, on en est à sa troisième vie.
Ah, c'est horrible.
C'est horrible.
Horrible.
Surtout qu'on sait pas du tout. Moi, ma vie, elle est géniale, hein. Donc, ce serait bien de s'arrêter comme ça.
Ouais.
Le jour du signe, quoi. Ouais, le beau moment.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
On n'est pas plusieurs, hein.
Non, mais je veux dire, êtes de bonne compagnie avec vous, vous vous fuyez, vous vous détestez.
Comment on peut se fuir déjà?
Bah on essaye. Si moi j'ai essayé, je suis allée à Chartres et c'est toujours avec moi.
Mais oui, mais vous restez avec vous-même, même quand vous prenez billet.
Mais j'ai
essayé. Avec vous, c'est votre nom sur le billet de train. Donc vous pouvez pas vous fuir. Non, je me déteste pas. Je ne m'adore pas non plus. Je me trouve quand même assez génial, mais non, ça va, tout va bien.
Ça a toujours été le cas?
Bah il y a eu des hauts et des bas, comme toute vie, je pense. Il n'y a pas de vie qui sonne toujours juste et tout ça. Mais ça va pour moi.
Alors, ce qui vous donne envie de vous lever, Éric Judor, ce sont le beau temps, un bon projet en écriture et vos enfants. Donc, une chose sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir,
c'est
la
mes
météo.
Enfants.
Non, une deuxième sur laquelle vous l'avez totalement, l'écriture, et une troisième sur laquelle vous l'aurez de moins en moins à mesure.
Je ne l'ai pas du tout dès le début.
Ah oui?
Non, parce que je dis une chose qui me donne envie de me lever, mais c'est une chose qui m'oblige à me lever en fait.
Ouais.
Ce sont les cris.
Oui.
Les cris des enfants.
Et un plaisir quand même, parfois.
Pas au moment du réveil. Parce que être réveillé par des hurlements, parce qu'ils se battent les miens, ils se battent entre eux.
Dès le matin.
Ouais, enfin, c'est leur manière peut-être spontanée, joyeuse de se...
Mais combien sont-ils ?
Parce que moi j'ai lu des interviews de mecs qui faisaient du MMA, vous voyez les frères.
Ouais, bien sûr, c'est le sport
ça,
le plus violent de tous.
Ouais, ils adorent ça la bagarre. Et ben j'ai l'impression que j'ai créé des petits MMistes. J'en ai trois apparemment là.
Ils font des activités extrascolaires ?
Oui, en plus.
Pour se canaliser.
Qui ne canalisent rien.
Quoi,
ça démarre. Ils font tout, basket, athlétisme, tennis.
En même temps.
Ouais, non, alors, bon, le problème, c'est qu'ils démarrent par le MMA.
Ouais. Bon, à suivre.
Bon, j'ai pas envie de suivre cette voie-là, non, je préférerais les foot.
Quittez-les.
Au golf. C'est pour ça que je suis là.
On va rester
belle
là.
Belle échappatoire pour
ouais.
moi, les médias.
Alors, parlons d'écriture. Vous avez collaboré ouais. au scénario de H, La Tour Montparnasse Infernale et Dalton à la.
J'ai plus que collaboré, je l'ai co-créé, hein, la série.
Ouais, mais vous n'étiez pas seul au scénario.
Non, mais je parle, je l'ai créé.
Oui, pardon.
La série.
Pardon.
C'est quand même balèze.
Ouais, c'était surtout une des séries les plus drôles de toute l'histoire.
Furée, mais vous m'adorez.
Oui, je vous adore.
C'est que je dois avoir un côté dark, parce que les darks, ils doivent reconnaître d'autres darks.
Non, alors moi,
ah, non
pas forcément.
D'accord.
Alors déjà, les choses dark ne m'attirent pas spécialement, okay. mais on
ne
va y venir tout à l'heure, okay. parce que je vous montre du stylo aussi.
Ouais, ok.
Oui, je vous pointe du
c'est
stylo.
Un peu agressif, mais vas-y, ouais.
Bah, je suis dark et agressif. Okay.
Moi, je suis solaire, j'ai l'impression, plus.
Vous êtes un soleil, Eric
ouais.
Judor.
Purée, vous m'adorez.
Ouais.
Vous m'adorez vraiment.
Alors, il y a des films.
Il n'y a pas trop de complicité, là. J'ai l'impression qu'on. Parce que je viens de recevoir des chiffres qu'on est exclu déjà 20% des auditeurs.
Mais là, je viens de recevoir des mails d'auditeurs.
Ah ouais
furieux.
Là, vous aussi.
Là.
Furieux de notre complicité.
Furieux.
Ça, c'est bien la France. C'est fou, ça, hein, d'être furieux d'entendre des gens complices
non,
et heureux.
Non, mais il y a une complicité unilatérale.
Est-ce que je vous ramène vers mon soleil?
Pour le moment.
Il n'y a rien, il n'y a pas de sous-entendu. Hein. C'est juste...
Arrêtez d'irradier quelques secondes, Eric Judor, si vous le pouvez. Je ne sais plus quoi vous dire. Vous avez réalisé, co-réalisé la tour de contrôle infernale.
Ouais,
surtout, corrigez-moi encore
pas à
si
réaliser
je dis
ça.
Des... Lequel?
Non, je n'arrivais pas à réaliser que je réalisais à ce moment-là.
La série Platane?
Ouais, j'adore.
Problemos, c'est le seul de vos films que vous n'avez pas écrit ?
Oui, c'est vrai. J'ai fait quelques petites retouches cosmétiques, mais gloire et honneur à nos deux auteurs qui sont Noé Debré et Blanche Gardin.
Le plus gratifiant, c'est de réaliser et de jouer ce qu'on écrit ou pas ? Parce que
ouais.
je pense à des gens que vous aimez bien, par exemple Peter Sellers, il jouait pour les autres, Woody Allen, il s'est créé ses propres rôles.
Ouais.
Vous, vous préférez quoi ?
Moi, j'adore écrire mes trucs et les réaliser ensuite, les interpréter. J'adore parce que je contrôle tout l'objet, quoi. Il n'y a pas de truc dont j'ai honte, quoi, ensuite.
Vous avez souvent honte ?
J'ai une sensation de honte qui arrive très vite, ouais. J'ai ce problème qui est en même temps, je pense, pour l'écriture et ce que je fais, peut-être une qualité, parce que j'ai un curseur de honte qui peut s'agiter très vite, ce qui fait que je fais très attention à ce que je dis, ce que je fais, comment je l'interprète et tout ça, ouais. Ça peut aider, je pense.
Est-ce que vous
à
avez...
être exigeant
vous avez...
et à couper la parole tout le temps. Pardon, non, allez-y. allez-y.
Je vais faire un peu de scat. Ouais, baboubab, quel duo.
Qui connaît le scat? Bah, remarque, sur France Inter, c'est un peu le...
Oui, bah, c'est la
c'est
chaîne du scat.
Premier sur le scat?
Oui.
Purée, dingue.
C'est pour ça que vous êtes invité, Eric Judor.
Ah, vous avez écouté mon album de scat?
Oui.
Purée,
Judor scat.
Bah, je viens pour ça aussi. Hein. Pas que
bah,
pour
je sais, mais là, même si c'est pas, là, c'est pas une émission de promo, mais je voudrais ouais. qu'on en parle de cet album.
De l'album de scat. Là, je suis en train de voir qu'on a encore perdu 30% d'auditeurs d'exclusion de scat.
Est-ce que vous avez une discipline d'écriture? Est-ce que c'est plus facile d'écrire à plusieurs?
Oui.
Est-ce que vous avez
oui,
des projets
mais,
en solitaire?
Laissez-moi finir, si vous me posez des questions et que c'est pour développer, merci la France.
Allez-y, c'est moi la France.
D'accord, c'est moi aussi la France, la France est le petit visage.
Pas
oh,
sûr
que si, oh si, pardon. Désolé, j'y étais avant vous.
Peut-être.
Vous avez quel âge?
72 ans.
Moi, je crois pas.
Peut-être
ça,
pas.
C'est une manière élégante de botter en touche.
Oui.
Je vous donne 33.
Je touche les bottes, merci, vous êtes flatteur, je vous en prie, répondez
vous
à la question, Eric Judor, non.
Ah, vous avez 40?
Non, moins.
À quel âge?
Bah, c'est facile,
39,
hein, il suffit de 38, taper sur Wikipédia.
37.
Ah, bravo.
Vous avez 37 ans?
Ouais. On peut parler de vous.
Ah ouais. Non, mais j'aime bien savoir avec qui je suis complice.
Ah.
Donc, Eva, vous avez 37 ans.
Mais alors, écrire tout seul, l'écriture en solitaire, c'est
dur. J'aime bien, je sais le faire.
Vous savez le faire?
Mais en fait, je conçois mon métier comme du partage de rire, en fait. Et du coup, je l'ai démarré en duo. J'ai pas fait de seul en scène. J'ai pas fait de stand-up tout seul parce que ça m'ennuierait de juste faire rire les gens, ce qui est déjà génial, hein, mais j'y trouverais du plaisir, en fait, à faire rire tous les soirs avec un peu les mêmes blagues que je connais, moi, qui me feront plus rire. Donc, je préférais faire quelque chose avec quelqu'un sur scène et partager des choses, quitte à se faire rire même à la fin que tous les deux, et perdre le public.
Et donc exclure.
Ça nous est encore une fois, on est
nous,
dans l'exclusion.
Nous, le peuple, vous nous excluez.
Non, encore vous, le peuple de France Inter.
Non, le peuple.
Le peuple tout court. Pardon.
Bon, dans un instant, il sera entre autres question de Jim Carrey, de Froid, de Pierre Richard, de Coluche, de Solzhenitsyn, de Série, de l'équipe de France 98, de
Allez,
tennis
bleus,
et de piéton. Ouais. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Les jours passent et se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la fenêtre.
Le morceau Ça se voit dans l'embellie sur France Inter.
Nous ça, c'est nouveau comme musique.
Éric Judor, ouais, ça vient de rentrer dans la playlist.
From bed of everlasting snow.
The Cold Song dans Le Roi Arthur de Purcell, interprété ici par le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet avec Peter Harvey au chant. C'est un artifice, Éric Judor, dont nous usons
pour introduire
ce que vous aimeriez changer dans votre environnement. Le froid, et vous ajoutez, en même temps, ça aurait de petites conséquences. Mais alors, changer le froid, dans quel sens? Physiquement?
L'annuler,
en fait. L'annuler,
ouais, annuler
qu'il ne fasse jamais froid. Mais c'est en cours, là, vous savez.
Je sais, mais je comprends les problèmes de réchauffement et tout ça. Je dis ça, vous me posez une question aussi, genre débile, donc je suis obligé de répondre à un truc absurde. Qu'est-ce que j'aimerais changer si ça n'avait aucune conséquence? Ce qui fasse tiède au maximum.
Tiède.
Et assez chaud de manière régulière.
Tiède, d'accord.
Tiède.
Ouais, tiède.
Ça ne me représente. Non, n'essayez pas d'aller chercher quelque chose. Ça ne me représente pas la tiédeur.
N'essayez pas de me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit.
Que je veux
tiède.
Une vie tiède.
Tiède.
Mais en fait.
Tiède.
L'agression du corps par le froid, ça me met mal, moi. C'est une première agression dans la vie. Quand on naît. Pourquoi est-ce qu'on enveloppe les bébés? Et pourquoi je prends des voix aussi aiguës quand je, ouais, fais, quand
êtes,
je dis pourquoi?
Vous êtes devenu le doubleur d'Eddie Murphy français.
Mais pourquoi, mec? Non mais c'est vrai, mec. Pourquoi est-ce qu'on les enveloppe dans le show? Parce que ça nous manque, quoi. J'ai envie d'être un peu tout le temps dans le ventre de ma mère. Ça pose un problème?
Non.
Visiblement, si.
Je peux baisser les mains?
Bien sûr.
Vous vous dites très peu...
Je vais voir tes mains.
Très peu engagé, Éric Judor, mais vous l'êtes pour une association Courir avec un K, créée en 92 à l'initiative du docteur Anne-Marie Prieur, rhumatopédiatre à Necker. C'est pour les enfants et les adolescents atteints d'arthrite juvénile. Vous êtes parrain depuis 2017. En quoi ça consiste?
Ça consiste à les emmener rigoler un peu à Disneyland, les emmener rigoler un peu au parc Astérix, assister à certaines rencontres d'associations, leur faire des petits messages vidéo, essayer de sensibiliser les gens à cette maladie qui est une maladie très peu connue sur laquelle la recherche est en cours, quoi, et il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc voilà, c'est mettre la lumière sur ça. Comme moi, c'est complètement con, hein, mais je souffre un peu d'arthrose. Et du coup, je sais ce que c'est une douleur arthritique, arthrosique, arthriforme, tiédique. Et du coup, quand je sais qu'il y a des enfants qui hurlent la nuit à cause de cette douleur, bah, ça me touche, en fait, ça me parle, quoi. Donc voilà, j'ai voulu parler un peu de cette assoce.
Sur l'engagement en général, vous dites que vous avez votre avis, mais... Je vous cite, je suis un humoriste, on s'en fout de mon avis, je suis là pour faire rire et mon engagement politique ou social, s'il y en a un, est en sous-texte dans mes œuvres, je ne vais pas le balancer en interview.
Ouais, je reviens un peu là-dessus, je suis à moitié d'accord avec moi-même. Je trouve que ce que Coluche a fait, c'est incroyable.
Justement, on va parler de lui en quelques instants.
Ah bah non, on parle de lui maintenant, pas de bol.
Ah bah non, c'est moi le chef d'orchestre.
Ah ouais, bah c'est bien ce qu'on va voir. Coluche.
Tiède.
Ah ouais, Coluche. Bah, je parle de Coluche maintenant. Ce qu'il a accompli.
Ok, bon bah d'accord, bah, on peut l'écouter un peu. On peut l'écouter un peu, vu que vous chamboulez tout mon ordre. On peut l'écouter, on a une archive de Coluche.
Excusez-moi d'être le chambouleur de France Inter.
Vous avez l'impression d'avoir un public.
Allons bon.
Vous dites, je préfère faire rigoler le prolo.
Oui, c'est ça, bah, parce que c'est quand même lui qui a le besoin le plus de se marrer. On a beau dire, parce que les mecs qui ne sont pas, enfin, qui ont un peu de monnaie et qui se débrouillent pour faire les courses, ils se marrent quand même mieux que les autres, on a beau dire.
Mais vous pensez que quand on habite le 16e, on ne va pas voir Coluche?
Chacun fait ce qu'il veut, ça les regarde, mais si les gens viennent et que ça les fait marrer, moi je suis pas contre, hein. Mais enfin, par goût, c'est vrai que je préfère faire rire les gens qui se marre pas dans la vie, parce que je sais pas si vous avez déjà bossé en usine, mais pour se marrer à l'usine, il faut un paquet d'humour. Hein.
Coluche dans le journal de 13h en novembre 75 au micro de Patrick de Rosbeau sur Inter. Comme je veux que personne se sente exclu dans cette émission, parce que j'ai trop d'empathie, j'aimerais défendre les privilégiés qui pourraient se sentir rejetés dans cet extrait. Parlez-nous de Coluche, Éric Judor.
Eh, mais c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est ce que je pensais. Je trouvais que... C'est con à dire, hein, mais qu'il agressait les riches,
ouais,
comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir du goût,
ouais,
comme s'ils n'avaient pas le droit de rire. Qu'en fait, que le rire, c'était le privilège des gens qui souffrent. Et non, c'est le privilège de l'humain. Et puis en plus, c'est pas parce que t'es riche que tu souffres pas, moralement. Je suis pas en train de défendre les riches non plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le rire, il est à tout le monde. Mais ce qu'il a réussi à faire, lui, c'est de donner à manger aux pauvres. C'est ça que je trouve...
Avec les Restos du cœur.
Dément. C'est dément, c'est-à-dire qu'il a dépassé son cadre pour tendre la main, quoi. C'est extraordinaire et je pense que c'est horrible ce que je vais dire, mais oui, on est dans un monde où chacun pense à sa gueule et à sa carrière et tout ça. Et on commence à réfléchir avec Ramzy à tendre la main aussi, quoi, et à utiliser notre notoriété pour ce genre d'initiative. Mais je trouve ça, c'est toujours... C'est toujours un truc d'image à la con, hein, mais quand on commence à communiquer sur des associations, sur de l'aide, ça envoie aussi l'image, parce qu'il y a un paquet de farceurs dans notre métier, et de mecs qui baratinent, qui sont là pour aider, mais que c'est juste pour envoyer une image d'un mec sympa, quoi. Mais je vais dépasser ça, je pense. Tant pis, hein, si on me prend pour ça, tant que ça aide
tant
des gens.
Tant pis si on vous prend pour un mec sympa.
Ouais. En vrai.
Je reviens à l'écriture, Éric Judor, on a l'impression que tout ce que vous faites est dénué de gravité, que c'est presque une chose que vous fuyez, la gravité, mais pas dans les choix que vous avez faits pour l'émission. Il y a une touche de mélancolie dans vos rôles chez Quentin Dupieux, par exemple.
Ah ouais, moi je suis
Seul
à moitié d'accord
assez profond.
Avec vous, Eva, puisque dans Platane,
Oui, c'est vrai, Platane, c'est vrai.
La maladie, de la mort, c'est vraiment un thème.
C'est vrai, mais les blagues sont jamais loin.
Ah ben, c'est
mon... Comme si vous aviez peur d'y rester trop longtemps.
Ah ben, ça, c'est sûr. C'est ma manière de traiter les sujets graves. Et je pense que, jusqu'à mon épitaphe, avec Ramzy, on essaye sans arrêt de trouver le meilleur épitaphe qui sera gravé sur notre...
Vous en avez un ?
Pas encore, mais on cherche sans arrêt.
Vous voulez le même ? Vous voulez partir
en
même temps ?
C'est possible, comme ça nous prendra moins de temps de recherche, et moins de temps d'écriture, mais c'est un thème que je veux aborder avec légèreté, la mort.
Mais vous y arrivez ?
J'essaye, en tout cas, dans Platane, c'est vraiment un truc que j'aborde, ouais, avec légèreté, j'ai l'impression.
Est-ce que vous vous censurez parfois dans l'écriture ?
Oui.
Je sais que vous êtes sensible à la censure actuelle. Vous dites que tout le monde s'offusque en permanence et que bientôt, il y a des humoristes qui vont ouvrir des restos.
Ah ben, je pense, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les carrières des humoristes, en tout cas ceux qui font des vannes engagées, elles tiennent à une vanne. Ils peuvent se faire shooter ou alors se faire dégager de l'émission dans laquelle ils officient, ils peuvent se faire virer d'une production pour un trait d'humour mal placé, quoi, pour un truc un peu foireux. Ouais, j'ai l'impression, quoi, on a un cadre maintenant.
Et vous vous censurez beaucoup ou vous dites que vous vous censurez, ça vous arrive?
Non, moi dans l'écriture la plus libre que j'ai eue jusqu'à présent, c'est celle que je développe dans Platane, je ne me suis pas censuré. Je me censure juste sur des sujets à moi qui me paraissent trop sensibles, la pédophilie et trucs comme ça. J'arrive pas à avoir du recul sur ça et à faire rire de ça. Mais sinon, sur...
Contrairement à Dave Chappelle, par exemple, que vous citez en exemple.
Ah ouais, ouais, c'est sans limite. Et il le fait d'une manière très intelligente et brillante. Donc, pour moi, c'est inattaquable. Même s'il se fait quand même attaquer, ouais.
On va découvrir les artistes et œuvres qui ont changé votre rapport au monde.
So, I understand you're from Lithuania.
No, I am from Caspiar.
Caspiar, huh?
It is a very small island in the Caspian Sea. It sunk.
Oh, I'm sorry. probably out of my mind, but I think you're very interesting. And if you ever need representation, we should talk.
Okay.
Mr. Shapiro.
Wow, it is an honor, sir.
Caspiar, huh?
Jim Carrey dans le chef-d'œuvre de Milos Forman, Man on the Moon, dans lequel il incarne l'humoriste Andy Kaufman. Là, il prétend avoir un accent d'une île de la mer Caspienne, Caspiar, qui aurait coulé devant son futur agent incarné par Danny DeVito. Éric Judor, vous avez signé l'avant-propos du livre du critique cinéma Adrien Desnouettes consacré à Jim Carrey, L'Amérique démasquée. Et vous le bordez avec Ramzy Bedia dans son lit roulant dans une station-service dans le court-métrage de 2003 Pecan Pie de Michel Gondry, tourné au moment d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vous le suivez depuis ces sketchs du début ?
Ah ouais, depuis In Living Color, la série que les frères Wayan avaient faite, c'est là qu'on l'a découvert. C'est un mec qui me tue de rire avec son corps, avec ses mots, il va très très vite. Alors maintenant, il va un peu moins vite parce qu'il a vécu une dépression, je crois, puis qu'il est devenu peintre.
Et il y a un documentaire assez fou sur lui, Jim et Andy, je sais pas si vous l'avez vu.
Je l'ai vu.
Il est bizarre.
Et tout le monde m'a dit oh là, incroyable, c'est fou comment il était dans son rôle du matin au soir, dès le réveil. Ça, j'y crois pas. J'y crois à moitié. Parce que c'est un documentaire qui est produit par lui. Que le personnage qu'il joue est un personnage hautement irrévérencieux, qui insulte tout le monde, qui gueule sur le plateau. Et on le voit visiblement dans le documentaire, même quand c'est coupé, il insulte les machinaux, machin. Et soudain apparaît le patron de Disney ou d'Universal, je sais pas, avec qui il est vachement moins irrévérencieux. Et là, je me dis, tiens, c'est pile là qui devrait dire va te faire enculer, et il le fait pas trop, il est un peu... c'est soudain de la vanne un peu irrévérencieuse, mignonne, qui m'a donné la puce à l'oreille de que peut-être que c'est un documentaire à sa gloire et à sa manière de se plonger à corps perdu dans ses rôles. J'y ai à moitié cru à cette folie. Jusqu'à ce que Michel Hazanavicius me rapporte une anecdote dont je vous fais part dès maintenant.
Oh oui.
Vous voulez ?
Oui.
Oui. On n'est pas trop complices, ça va ?
Non, mais
on
le cri
pas
du
trop
peuple.
Exclu. Les gens sont revenus, on
oui.
a inclus des gens.
Oui.
Ok. Michel Hazanavicius reçoit un scénario que Jim Carrey voudrait absolument faire. C'est un mec qui, apparemment, donc le personnage du film, a un personnage imaginaire, un ami imaginaire, qui serait un ours géant, une peluche géante. Je ne sais plus si c'est un lapin ou un ours, bref, de 2,50 m, à qui il parle régulièrement. Et donc, Michel va à Los Angeles et déjeune avec Jim Carrey. Et Jim Carrey arrive et fait « Ok, moi je vais prendre une salade, et toi tu veux quoi ?» Et il commence à s'adresser à son lapin ours imaginaire de 2,50 m. Et donc Michel, il se marre évidemment, et puis il continue « Ah, tu voulais boire quelque chose peut-être? Tu veux un soda ou tu veux un jus d'orange pressé ?» Et il continue à s'adresser comme ça, Michel se marre de moins en moins, et puis ça dure tous les déjeuners.
Oh là là.
Et c'est très long. Ouais. Quand t'as un mec qui parle à un personnage imaginaire pendant une heure et demie. Et visiblement, c'était très gênant. Alors, je sais pas s'il m'a autorisé à donner cette anecdote, mais je m'en fous, je l'ai raconté. Donc voilà. Donc, il y a eu une anecdote qui me raconte qu'effectivement, il peut être possédé et il peut montrer qu'il est possédé. Et puis, de ce que j'ai vu du documentaire, qui était une gloire à sa manière de s'investir dans les rôles, à laquelle j'ai à moitié cru.
On a été 3-4 fois comme ça, aux séances du samedi, du vendredi, celles les plus populaires. Et puis on se cachait, on arrivait au début du générique, évidemment, pour pas se montrer. On se planquait assis par terre pour pas être dans les rangs, parce que sinon ça, les gens sont troublés par votre présence, et alors c'est plus l'écran qui regarde, c'est vous. Donc on se planquait en bas, on voyait même pas le film, puisque on était trop bas. Mais on le connaissait par cœur, au millimètre près, puisqu'on l'avait tourné. Et puis on a écouté les gens rire, et puis voilà, c'était notre récompense. Et on se donnait des grands coups de bourrade dans le dos, oh, regarde là, c'est bon, et on a fait ces rafales de rire. C'est quelque chose qu'il faut être acteur pour le comprendre.
Pierre Richard, dans l'émission Synergie de Jean-Luc Hesse en 94 sur France Inter, il revient sur la sortie du film La Chèvre de Francis Weber avec Gérard Depardieu, un acteur que vous avez fait tourner, Éric Judor, dans Platane, et qui est pour vous comme un dieu.
Ah ouais. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, hein. C'est con à dire, mais c'est l'acteur, ce sont ces films qui réunissaient la famille dans le canapé et qui nous faisaient vivre des vrais moments complices ensemble. C'était les films du dimanche soir qui passaient à la télé, et puis mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, moi, on riait tous à des endroits différents d'ailleurs dans ce film, mais ça nous réunissait, et puis ça me, je sais pas, c'est ma Madeleine quoi. C'est un moment de famille, de pur plaisir, d'éclat de rire, d'unité, je sais pas, et puis sa gestuelle, sa tête, on a tout de suite envie de l'aimer quoi. C'est l'humoriste parfait pour moi, et puis c'est l'humoriste parfait dans le sens où il nous donne cette chaleur quoi, parce que moi j'avais pas fait mes devoirs encore en plus, donc j'avais ce stress que je les avais repoussés à après le film. Et donc, fallait que je les fasse à 11h du soir et ça. Mais j'avais complètement oublié que je devais faire mes devoirs au moment où j'avais une grosse interro le lendemain, au moment où je regardais le film de Pierre Richard. Et c'est ce que racontait tout à l'heure Coluche. Hein. Par ailleurs, c'est faire oublier un peu sa propre misère. C'est ça le job de l'humoriste, le job réussi de l'humoriste.
Vous paraissez très sensible aux humoristes qui utilisent leur corps. Je sais que vous étiez fasciné plus jeune par Harpo Marx.
Ah mais ouais, c'était le plus drôle, c'était celui qui avait le moins à faire sur un plateau.
Et il parlait pas.
Bah oui, je lisais des interviews de Groucho Marx, qui était brillant, mais qui lui écrivait ses textes et il avait des pavés. Et c'était très absurde. Et c'est un autre domaine de comédie que j'adore aussi. Mais il devait bosser deux fois plus que Harpo. Parce qu'Harpo, il arrivait et puis il appuyait sur son pimpon là. Puis il enlevait les cannes des gens. Il se faisait tenir la jambe par les autres. Il inventait des trucs. Et, le corps, c'est l'ultime outil de comédie. Puisque tout le monde essaye de rentrer dans la norme, de marcher normalement, d'ouvrir une porte normalement, de s'asseoir normalement. Et du coup, dès que quelqu'un fait ça un peu de travers, quand Pierre Richard s'assoit et se casse la gueule justement dans La Chèvre, parce qu'on teste son niveau de malchance en pétant un pied de chaise et puis en le laissant s'asseoir, en laissant faire le choix d'une chaise dans un bureau, c'est à pleurer de rire quand il se prend la porte de l'aéroport qui se ferme devant lui, c'est à pleurer de rire. Quand Jim Carrey fait des démarches marrantes, quand les Monty Python inventent le concours de démarches, le ministère de la démarche,
ouais,
c'est hilarant de voir le corps se déformer et ne pas fonctionner comme tout le monde.
Every single thing that's gone wrong, it's your fault.
What did I do? Where's this come from?
We see a t-shirt that costs £1 and we think, oh, that's a bargain, I love that, and we buy it. And the shopkeeper gets 5 miserable pence for that t-shirt. And some little peasant in a field gets paid 0.01 pence. And we think that's fine. All of us.
Extrait de la série anglaise Years and Years, dont les 6 épisodes ont été diffusés en 2019 sur la BBC et en France sur Canal+. C'est la vie des Lions, une famille de Manchester racontée sur 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l'Europe et qu'un nouveau monde émerge. Et c'est sacrément dark, si vous me le permettez,
ouais,
Éric Judor.
C'est vrai, ça vous correspond bien, c'est pour ça que
Mais non, justement pas. Ah justement bon pas, non. Au contraire, moi
d'accord.
Je fuis tout ça.
Ah ok, d'accord, ok.
Est-ce que vous pouvez nous remettre en contexte l'extrait qu'on vient d'entendre
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais en fait, c'est ce que les Anglais savent faire. Hein. Ils sont humains, ils arrivent à avoir un propos universel. C'est-à-dire, ils peuvent traiter de l'histoire, comme vous dites, d'une famille quasi lambda, britannique, donc assez loin de ce que moi je connais, de mes références. Et pourtant, ça me touche de plein fouet, cette série. C'est dark, comme vous dites, parce que c'est une déclinaison de ce qui est censé devenir notre monde.
Il y a des réfugiés ukrainiens, j'ai trouvé ça très très
mais
fort.
Tout est incroyable.
Parce que ça a été tourné, évidemment.
Tout est incroyable, et malheureusement, tout est en train d'arriver. Et c'est flippant à quel point c'est prémonitoire. C'est brillant, l'écriture est brillante.
On mettra les références sur le site internet.
Ouais, tout simplement.
Ouais.
Ils en parleront mieux.
Quand nous étions encore dans les camps, dans les années 40 du XXe siècle, nous pensions que la puissante Amérique pourrait intervenir en Russie, nous parachuter des armes pour que nous puissions nous libérer. Mais ensuite, nous avons compris que l'Amérique, l'Occident, vous savez comment on dit, face au péril, ne pense qu'à toi-même. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de se maintenir. Ils sont loin de pouvoir modifier notre situation. Vous êtes loin de pouvoir nous sauver. Oui, la libération de la Russie ne viendra que de l'intérieur.
L'écrivain russe et dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn dans Apostrophe en 1983. Il est alors exilé dans le Vermont aux États-Unis où Bernard Pivot s'est rendu pour l'interview. Pourquoi Solzhenitsyn, Éric Judor ?
La littérature russe en général m'a toujours touché un peu plus que l'américaine ou l'anglaise. Et Solzhenitsyn, je sais pas, il y a un bouquin qui s'intitulait Une journée d'Ivan Denisevitch, il me semble. C'est le quotidien d'un camp. Et c'est dit d'une manière, c'est raconté d'une manière clinique, sans larmoiement, sans, ils essayent pas de s'apitoyer sur le sort de ce type dans le camp. Et du coup, c'est bouleversant, quoi. C'est bouleversant. On a froid pour lui. Enfin, c'est la première fois que je lisais et que j'avais froid. en lisant, que je réussissais à retranscrire le froid en écriture. C'est balèze, non ? Je trouve. Donc, je sais pas, ils ont quelque chose de triste et de dur dans l'écriture, les Russes, ceux que j'ai lus en tout cas. Et du coup, ça me parle.
J'ai un ami qui...
J'avais un ami.
Non, mais d'accord. Non, c'est faux, c'est un ami imaginaire. Non, d'accord. Mais il peut pas pleurer tout seul quand il est triste. Alors, il est obligé de prendre des supports, il est obligé de regarder des films tristes pour pouvoir s'autoriser à pleurer. Est-ce que vous, c'est pareil, Éric Judor ? Parce que comme vous semblez justement fuir la gravité ou le premier degré à tout prix, mais que vous choisissez plein d'œuvres tragiques, tristes, sombres, est-ce que c'est pareil ?
Non, parce que en fait, ce que je vous cite là, c'est ce que j'ai regardé ou lu il y a 10-15 ans. Et en littérature, je vais pouvoir continuer à lire des choses un peu tristus, un peu profondes. mais je ne veux plus m'endormir en ayant regardé un film d'horreur ou un film dur, un film qui raconte la condition humaine, tout ça. Je ne veux plus de ça parce que mon cerveau se formate ensuite et puis j'ai des pensées négatives qui arrivent et tout ça. Et c'est con à dire, hein. Mais je pense que bah voilà, le cerveau. C'est comme le corps, quoi. Le corps, si on l'entraîne et on lui file des protes et tout ça, on va avoir des muscles, on va devenir balèze. Et le cerveau, si on le nourrit à des trucs sinistres, il va créer une case sinistre et puis des pensées sinistres qui vont arriver. Et voilà, moi, je suis dans ma dernière vie et ma dernière vie, elle devrait être sympa et cool et solaire. Donc, fuck that.
I had to get this off my chest, had to be said. You're stuck in my head. You said that it's not black and white, but I know I'm still coming over tonight. Now it might be the last time. Wishing we could go further. Feeling blue, I'm up all night, 'cause now my bed feels twice as big. Since you left me and left, you tore me to pieces. I need all of you.
Expiration Date sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Éric Judor.
Bonsoir.
L'embellie. Eva Bester.
Et ce sera un corner pour l'équipe de France tiré par Emmanuel Petit. Attention à ce corner pour l'équipe tricolore. Il y a les joueurs de tête et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane. Et but ! But de l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit. La tête de Zizou. Premier but pour l'équipe de France. 1-0 pour la France.
1-0 pour la France. Zidane qui vient de marquer.
Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot le 12 juillet 1998. Commenté par Pierre-Louis Castelli et Jacques Vendroux. Incroyable. Premier but de Zidane à la 28e minute. Éric Judor, vous avez choisi dans votre équipement existentiel l'équipe de France 98.
Je m'en fous du foot en vrai. Hein. Je ne suis pas du tout un mec derrière les équipes et tout ça. Même si j'aime bien le PSG, j'aime bien l'équipe de France. Mais je vais regarder pour la Champions League ou la Coupe du Monde. Voilà quoi. Sauf que, en 98, la France et le sport français en général, c'est des losers! On avait vraiment un problème de gagne. Les Ricains, ils gagnaient tout. Ils voyaient, ils avaient des mentales de malades et tout ça. Et des mecs comme Agassi, Sampras, qui gagnent tout. La Dream Team avec Magic Johnson, Jordan. C'est des mecs qui sont beaux, ils sont forts. Et nous, on avait des Batistons et tout ça. Des mecs un peu frêles qui gagnaient pas, quoi. On perdait en quart de finale contre la Bulgarie, tout ça. On était une équipe comme si on avait un karma un peu à payer, quoi. On était, je veux dire, un sport français qui avait un karma de merde. Et est arrivé 98, la Coupe du Monde. Et ça a dépassé ce match-là. C'est soudain, le français pouvait être considéré comme un gagnant, quoi. Il y avait Noah d'abord en 83 là, avec Roland Garros, mais 98 a été un raz-de-marée de feeling gagnant chez les Français, je trouve. Et cette victoire, elle a tenu, j'ai l'impression, le peuple en joie pendant des années. pendant, je dirais, allez, 2-3 bonnes années.
Et le peuple confirme.
Le peuple, ah merci, le peuple France Inter. Le peuple était heureux et se sentait fort. Et ce que je trouve fou avec cette victoire, et si on la ramène à la victoire de la France en 2018, de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est que la victoire, elle a fait plaisir aux gens. Il y a eu une allégresse, mais qui a duré 2 mois, quoi. Au bout de 2 mois, tout le monde s'en foutait d'avoir gagné la Coupe du Monde. Je trouve ça dément à quel point, tellement nous, Français et public, on est bombardés de des réseaux sociaux, de sollicitations artistiques, culturelles, machin. On a tellement de choses qui nous arrivent qu'on prend des plaisirs très courts, instantanés, et on les digère tout de suite, et on a faim d'autres plaisirs encore. Alors que nous, là, on avait à bouffer pendant 4 ans, quoi. C'était comme une grosse bonne tartiflette, Coupe du Monde 98.
Ouais, vous venez de résumer le capitalisme, Eric Judor. Vous venez aussi d'évoquer le tennis.
J'adore le capitalisme.
Mais j'adore aussi le capitalisme. J'ai l'album Panini du capitalisme.
Sans déconner.
Oui.
Putain, moi aussi, je l'ai en double.
Vous l'avez plus que moi.
Tellement j'adore.
Vous avez raté votre carrière de tennis.
Oh,
vous avez tenté une carrière professionnelle aux États-Unis à l'âge de 18 ans.
Je ne sais pas que ça intéresserait qui que ce
soit. Mais si, c'est intéressant. Vous aviez commencé à 11 ans. Vous vous entraîniez 3 à 4 heures par jour. Vous étiez classé 4-6.
Ouais, c'est nul.
Non, c'est pas
si
nul.
Si, c'est nul.
Pas du tout.
Et bah, c'est nul.
Non, c'est pas nul.
Bah, c'est que vous connaissez très gentil, en tout cas, d'aller dans mon sens et de me brosser dans le sens du poil, mais c'est nul. 4-6 à 18 ans, c'est nul. C'est raté. Ça veut dire faut arrêter. C'est ce que j'ai fait.
Vous vous comparez à Mats Wilander.
Physiquement.
Non, pour le jeu, je vous cite le jeu chiant de Suédois.
Ouais, voilà. Mais encore que Mats Wilander, je peux pas dire qu'il est chiant. Il était incroyable, ce joueur. Moi, j'étais chiant. Et d'ailleurs, c'est le seul mec que j'ai rencontré, Mats Wilander. Et j'ai pas osé aller lui parler. Je mangeais à une table à côté de lui et je tremblais.
Vous mangez à une table?
Ouais, je mangeais à une table à l'époque. Ouais, ça marchait pas trop.
Non.
Mais c'était une table en poulet.
Ah.
Ah oui, quand même. Oui, une table antillaise. Voilà.
Je vous ai demandé quelque chose de beau. Eric Judor a recommandé aux auditeurs.
What's the color yellow mean to you? What's the color yellow mean?
I'm thinking why.
What's the color?
Power.
You ever kill anyone?
No, have you? Was that you that did that?
Were you trying to kill me when you threw me in?
No.
Extrait de la série américaine Outer Range, créée par Brian Watkins, est disponible sur Prime Video depuis le 15 avril dernier.
Extraordinaire.
Je ne traduis pas cette conversation, elle est très énigmatique et on ne peut pas la comprendre hors contexte, ni dans le contexte
non,
d'ailleurs.
Non, si, bien sûr dans le contexte.
Pas totalement. Si. Parce que
c'est la première fois dans cette scène-là, c'est la première fois, parce que tout est laissé un peu en suspens. En gros, il se passe dans le premier épisode un événement assez extraordinaire. Ça se passe dans le Wisconsin ou Wyoming, je ne sais plus, en tout cas l'Amérique profonde et tout ça. Et c'est assez des images de Marlboro, quoi, des images de cow-boy sur son cheval, des mecs qui mâchent de la chie, qui font du rodéo sur taureau et tout ça.
Ou du quad, des cow-boys
ou
en quad.
Ou du quad, des cow-boys en quad, c'est assez nouveau ça.
Ouais.
Et paf, se passe un événement extraordinaire qu'on n'explique pas, que le personnage principal ne s'explique pas, fuit même. Et soudain, là, dans cette conversation, il est confronté à toutes les questions que le public se pose sur tout ce qu'il vient de voir depuis deux épisodes. Donc je trouve cette conversation géniale.
Dont une béance dans le sol
Ah bah vous avez qu'à donner la chute, ouais.
Mais non, mais ça c'est dans le premier épisode.
Ouais, bah c'est la chute du premier épisode, vous avez bien niqué le truc.
C'est pas la chute, c'est au milieu.
Si,
arrêtez.
C'est vous arrêtez.
Tiède.
Tiédeur.
Tiédeur, Eric Judor, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez dit zéro blessé, zéro casualties. Casualties, c'est des victimes, c'est donc l'idée de ne pas faire de mal
parce
autour de vous.
Anglais, ouais.
Ouais.
C'est de forcément, j'ai blessé des gens et forcément, j'ai fait souffrir des gens. Peut-être au début de ma vie. Volontairement, et je le faisais exprès, comme un connard qui essaye d'apprendre à vivre. Et puis, au fil du temps, j'essaye d'être le plus gentil possible, c'est vrai. J'essaye d'être très mignon.
Bah, votre engagement de fin d'émission va avec ça, puisque c'est un engagement assez accessible, c'est de laisser passer un piéton. En voiture ou à pied?
Oui, parce que en voiture, évidemment.
Mais à pied, ce serait drôle aussi.
Ça fait 2 ans que je suis sorti de Paris, et là où j'habite, j'ai redécouvert cette politesse incroyable des gens qui s'arrêtent, même quand on n'est pas à un passage piéton, qui s'arrêtent et qui vous laissent passer quand vous êtes à pied. C'est génial! Non, mais cette politesse, elle est géniale parce que du coup, ça vous donne le sourire. Vous souriez à la personne qui vient de vous laisser passer, qui vous fait un petit signe de la main, qui derrière vous recroise ensuite dans la journée et se refait des petits signes. Et ça crée des liens et ça crée de l'humanité. Et on a moins envie d'être impatient ensuite si on est allé au resto quand on attend son café ou son plat. On est plus cool. C'est tous ces petits signes qui, en cascade, font que à la fin de la journée, on se sent bien.
La civilité. Merci beaucoup, Éric Judor, d'être venu
c'est
dans l'émission.
C'est toi, merci beaucoup. Vous.
C'est vrai, je suis, merci beaucoup.
Oui, vous êtes.
Et le peuple.
Oui, je suis.
Vous m'avez reconnu.
Je le suis.
Vous êtes aussi, merci beaucoup.
Oui, je suis, merci.
Vous figurez dans le roman photo Guacamole Vaudou de Fab Caro, paru le 6 mai dernier aux éditions du Seuil.
Parfaitement.
On peut vous voir dans la deuxième saison de LOL qui ressort, disponible sur Prime Video, et dans la série Weekend Family sur Disney+.
Très mignon.
Vous développez une série pour Arte, Huracan.
Un peu dans l'esprit d'un outer range. Ouais, Huracan, c'est le coup de poing le plus rapide du monde.
Oui, et un late show avec Ramsey pour Amazon Prime, ça c'est une très bonne nouvelle.
Yes, baby!
Oui, et vous serez bientôt à l'affiche de la série de Jean-Pascal Zadi En Place.
Ah, ça va pour moi.
Et ouais, ça va pour vous. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi ébaudis qu'un pimpita chanteur de gospel. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.
Ça veut dire quoi?